avec The Sky is Falling, en 91, McCaslin abaisse le faux plafond de la galerie Jennifer Flay à Paris sur deux niveaux distincts pour rendre visible d'une part le plafond d'origine, d'autre part l'ensemble des fils électriques d'ordinaire soustraits au regard. Cette réalisation, demeurant fort sage esthétiquement, donnait à voir dans toute sa pureté la dimension déictique, hein, de désignation du propos de McCaslin. Vous avez compris pourquoi j'évoque ici cette œuvre de McCaslin, c'est qu'elle n'est bien sûr pas sans rapport avec National Chain de Rita McBride, hein, la grande pièce du centre en quelque sorte de l'exposition. Cette pièce qui consiste en effet non pas en faux plafond comme la pièce de Matthew McCaslin, mais en profil de fixation de faux plafonds suspendus dans l'espace de telle sorte que les visiteurs doivent se courber pour pouvoir évoluer à l'intérieur du périmètre ainsi délimité. La pièce peut d'ailleurs être présentée de différentes façons en fonction de la configuration du lieu. L'art de Rita McBride a pour ambition de révéler l'appareillage caché des architectures modernes en le transformant en sculpture. Si McCaslin nous montrait des fils électriques, Rita McBride s'intéresse à d'autres fluides, l'eau, hein, avec cette pièce de 99, ou l'air avec White Elephant, une pièce de 99, ou encore l'air également avec une pièce au titre significatif, Servants and Slaves, une pièce de 2002. Donc elle souhaite nous révéler ces parties ancillaires, généralement cachées, des architectures modernes. En 2002, au Kunstmuseum de Liechtenstein, Rita McBride fait fabriquer, je n'ai pas d'image, excusez-moi, je n'ai pas réussi à en trouver, une réplique d'une partie du rez-de-chaussée de la Villa Savoie, conçue par Le Corbusier au début des années 30. Et ce rez-de-chaussée de la Villa Savoie, il est l'endroit où sont localisés les services de la villa, chambre de la domesticité, buanderie, espace de rangement pour les machines qui arrivaient, hein, les nouvelles aspirateurs qui arrivaient, et les produits d'entretien. Donc c'est cette partie-là, cette partie de service que reproduit Rita McBride dans cette exposition de 2002. Ce qui est très étonnant, c'est qu'à proximité de l'escalier reproduit, McBride avait disposé de petites sculptures humanoïdes en bronze qui dataient de quelques années auparavant, 1994, au titre éloquent Hunchback, le bossu. Ainsi, alors que l'artiste entend mettre en lumière la face cachée et les présupposés idéologiques de cette architecture moderne que nous aimons tant, dans un geste qui n'est finalement pas si éloigné de ces artistes qui avaient voulu faire la critique du White Cube et de l'institution muséale, l'artiste fait surgir de petits êtres aussi étranges qu'inquiétants. Ainsi, en l'un de ces moments de renversement dialectique dont l'histoire de l'art est coutumière, et c'est ce qui la rend passionnante, voyons-nous la logique séculière, réaliste de l'œuvre située, qui veut dire la vérité de sa situation, se transformer en un déploiement poétique et insolite d'une œuvre spacieuse. L'architecture qui avait été le lieu de la rencontre entre l'art et le réel semble être maintenant livrée aux puissances du mystère et du trouble. De ce nouveau statut du lieu d'exposition dans l'imaginaire contemporain, la remarquable pièce d'Évariste Richer intitulée « Les sondes », pièce de 2006, porte témoignage. L'artiste nous donne des outils d'investigation de l'espace d'exposition, mais celui-ci est désormais comparable à un domaine incertain, instable, dont il nous faut non contempler la surface, mais explorer les profondeurs. Aussi, Richer nous présente-t-il ces sondes que l'on utilise pour rechercher des corps ensevelis sous la neige. Cette exposition distribue d'autres preuves des nouveaux mystères du lieu, avec Landscape de Guillaume Leblon, une pièce de 2003. Une fumée s'échappe du bas d'un mur. Tous ces kilomètres de fils cachés derrière les murs ou les plafonds que les installations de Macassine avaient exhibés devaient bien finir par provoquer une surchauffe, le début d'un incendie. Le Smoking Bench, de la même année d'ailleurs, 2003, que le Landscape de Leblon, le Smoking Bench de Yeppe Heim enfumait déjà le spectateur. C'est maintenant une fumée rampante qui fait planer comme une menace sur l'intégrité du lieu. Non pas donc un envahissement comme les brouillards que depuis 1997 et que Nathalie Arginot a montré dans un autre lieu, que les brouillards que Anne-Véronica Janssens répand dans des salles d'exposition pour provoquer une expérience sensorielle nouvelle aux spectateurs, mais la diffusion d'un signe nous suggérant que le lieu ne représente plus le seuil du réel, mais les coulisses d'une fiction. Alors si le lieu d'exposition fume, il vibre également. Depuis 2005, Michael Seilstorfer a réalisé plusieurs œuvres qui sonorisent en les amplifiant les vibrations captées par des sondes fichées dans un bloc de béton. Ces vibrations semblent venir des profondeurs d'où viennent eux aussi, on l'a vu, les cubes blancs de la Mourou. Comme le titre de la pièce présentée dans Fabricateur d'espace le laisse entendre, hein, Top of the Syrian Reactor Before Concrete Poured, la partie supérieure du réacteur syrien avant qu'elle soit coulée dans le béton, les connotations des vibrations en question n'ont rien de bien euphorique. On pense à un accident nucléaire, et notamment à celui de la centrale de Tchernobyl, dont le réacteur a été, il faut le savoir, coulé dans un immense bloc de béton afin d'éviter les radiations. Bloc de béton qui a explicitement servi de modèle au réacteur de Seilstorfer. On pense également au film The China Syndrome, le syndrome chinois de 1979, film de James Bridges, thriller technologique dans lequel le cœur d'une centrale, à la suite de l'emballement de la réaction nucléaire, risque de traverser la Terre pour arriver en Chine, d'où le titre et d'où les complications diplomatiques que vous imaginez. Film d'ailleurs qui a bénéficié, c'est sans doute le plus beau coup de marketing de l'histoire du cinéma, parce que le film sort en 1979, et 15 jours après sa sortie, il y a l'accident nucléaire de Three Mile Island, donc c'était une espèce de campagne de promotion dans aucun film, dont le film n'aurait jamais pu rêver. Vous le voyez donc, la chambre blanche de Lamourou et les réacteurs de Seilstorfer, malgré les énormes différences de vocabulaire et esthétique qui les séparent, ne sont finalement pas totalement étrangers l'un à l'autre. Alors le meilleur moyen qu'avait trouvé l'art pour se séculariser, c'était de solliciter, je le disais au début de cette intervention, de solliciter d'une façon ou d'une autre la participation du spectateur qui est au fond le représentant du monde réel. Hein. Les deux grands représentants du monde réel dans les années 60 et 70, c'est un, le lieu d'exposition, et deux, le spectateur. Où un, le spectateur, et deux, le lieu d'exposition. Ben, ce spectateur qui était le représentant du monde réel et qui, à ce titre, était convoqué par l'art désautonomisant, le banc de Yeppe Heim, vous l'avez vu, le fait disparaître. Et avec une autre pièce de Seilstorfer, Versus Reacteur, ce sont les pas du spectateur qui produisent les vibrations captées et amplifiées, un peu comme si le spectateur n'avait plus d'autre mission que de se faire peur, en quelque sorte, à lui-même. Après le grand et important moment de sécularisation, après cette séquence d'un utopique devenir vie de l'art, pour reprendre la formule de Jacques Rancière, qu'aura été dans la dernière décennie du XXe siècle l'esthétique relationnelle, le lieu me semble avoir changé de nature. Hein. C'est ce que cette exposition permet remarquablement de vérifier. Hein. Vous vous souvenez peut-être de la cheminée de Xavier Veillant, conçue en 96 pour l'exposition manifeste de l'art relationnel à l'exposition Trafic au CAPC. Cette pièce venait faire de l'espace expositionnel un foyer, dans tous les sens du terme. Les deux feux que Leblon faisait brûler 4 ans plus tard, en 2000, derrière une simèse, avaient déjà beaucoup perdu de la convivialité de la cheminée de Veillant. Plus de sièges alentour, les feux se consument à distance, dans un autre espace que celui où évolue le spectateur. Un foyer d'ailleurs étrange d'être double, quelque chose comme un double foyer. En d'autres termes, la mise en jeu de l'espace d'exposition et de son occupant légitime, le spectateur, n'a plus aujourd'hui cette valeur de sécularisation de l'art qu'elle avait pu prendre au moment où l'art se déprenait de ses illusions autonomistes et essentialistes. Tout d'abord, fermé, occulté par la palissade de Chagousse, le lieu d'exposition semble s'ouvrir finalement grâce à la colonne lumineuse de Seilstorfer, Unendliche Säule, la colonne sans fin. Mais s'il s'agit bien d'une ouverture, celle-ci s'effectue non en direction de la ville ou du réel, comme l'avait fait par exemple en 1994 à Vienne à ses sessions Rockenshow, mais vers un ailleurs, le ciel, les étoiles, cet ailleurs que convoquait aussi la pièce de Björn Dahlem, Charles Lord. En 1961, vous l'avez vu, Capro invitait son public à marcher sur des pneus. Ces pneus qui étaient ainsi devenus les accessoires d'une spatialisation ludique de l'œuvre, le voilà maintenant qui s'use, se pulvérise dans une friction avec la simèse. Zeit ist keine Autobahn. Le temps n'est pas une autoroute, de Michael Seilstorfer. Nietzsche disait que l'art était une chauffe. Eh bien, la caoutchouteuse vanité contemporaine de Seilstorfer semble le confirmer, en montrant de surcroît que le temps n'est plus où le lieu d'exposition incarnait l'avant-poste de la froide réalité du non-art. Il participe désormais pleinement, et c'est ce que cette exposition nous permet de comprendre, de la chauffe artistique. Merci.
Merci Michel Gauthier pour cette intervention qui donc, est à la fois un panorama, une grille de lecture à poser en fait à cette exposition, à ces artistes, mais c'est en même temps aussi une sorte d'ouverture intéressante par rapport à l'exposition, une ouverture temporelle d'abord, l'histoire. Ouverture à l'histoire dans laquelle une expo comme celle-ci trouve un certain nombre de ses prémices et également une ouverture en termes de corpus, hein, les artistes que vous avez convoqués qui ne sont pas nécessairement partie prenante de cette exposition permettant d'éclairer effectivement les démarches ici présentes. Je reviendrai sur peut-être cette ouverture temporelle que vous avez offerte. Elle vous permet de définir finalement deux formes de rapport à l'espace. Et, je pense qu'il faut, on peut retenir en tout cas, hein, oui, pour ses qualités holistiques, cette distinction que vous faites entre l'œuvre spacieuse, hein, donc, et l'œuvre située. L'œuvre située me semblant aussi en fait finalement pouvoir reporter l'attention du spectateur sur d'autres, bien d'autres composantes de l'espace en fait, hein, sur ce qu'on pourrait appeler les parergas ou les entours de l'œuvre. Et je suis frappé donc à vous écouter, regarder un certain nombre des choses que vous avez montrées, à quel point au fond reviennent dans le champ des préoccupations esthétiques, des choses qui ont été exclues effectivement du fait de l'ancienne autonomisation de l'œuvre, et ces choses qui reviennent à mesure de la dévoratisation de l'œuvre, eh bien, ce sont les entours de celle-ci, en fait. Hein, donc, les murs, les cimaises qui se mettent à bouger, qui se mettent à fumer, qui sont éventuellement dégradés. Mais reviennent aussi, finalement, les éléments de l'équipement mobilier du lieu, comme donc, les gradins, les bancs, les sièges, les rideaux, hein, effectivement, sur lesquels, dans une des géographies anciennes, mais encore pas si éloignées, on accrochait hein, les tableaux, justement. Voilà, donc en fait, il y a au terme de cette distinction que vous faites, la possibilité, au fond, de faire réintervenir toutes sortes d'objets tels que ceux-ci, toutes sortes de parerga, en fait, dans le discours sur l'œuvre, par l'attention du spectateur. Un mot là-dessus, éventuellement ?
Oui, moi, ce qui me... marche, oui. Moi, ce qui m'intéressait plus... Enfin, ce qui m'intéressait prioritairement, peut-être, avec cette distinction, c'était qu'elle permettait de comprendre que la spatialisation de l'œuvre d'art pouvait avoir eu deux ambitions diamétralement opposées. Dans un cas, l'ouverture et la mise en relation de l'œuvre avec son entourage, avec ce qui n'est pas l'œuvre, avec le non-art, et dans un autre, au contraire, à l'opposé, une simple expansion du domaine de l'œuvre. Deux logiques foncièrement contradictoires, et qu'on n'a parfois pas su distinguer parce que l'une et l'autre, d'une certaine façon, les deux types d'œuvres jouaient d'une forme de spatialisation de l'espace. Et il me semble qu'il était important de voir que dans les années 60 et 70, d'une certaine façon, il y a l'art de la critique institutionnelle qui a ouvert le lieu d'exposition, qui a mis en relation l'œuvre d'art avec ce qui n'est pas elle, avec un réel extérieur, et puis l'art de l'installation qui a lui simplement étendu spatialement l'œuvre d'art. Et ce qui se passe au fond aujourd'hui, on le voit, c'est que même si cette distinction peut trouver à opérer, les logiques fondamentalement différentes de l'œuvre située et de l'œuvre spacieuse ont totalement disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contradiction entre l'une et l'autre, dans la mesure où ce que vous appelez les parerga du lieu d'exposition sont devenus... tout en restant des parergas et en ne devenant pas des éléments de l'œuvre, mais sont devenus des espèces de générateurs de mystères, de troubles, d'aura, qui n'avaient pas pour mission d'être lorsque les premières œuvres situées les ont faites apparaître comme telles.
C'était justement l'objet de ma deuxième observation. Il est effectivement très frappant aussi, en vous écoutant, de regarder comment l'esprit laïque, finalement, dans lequel la création était abordée dans les années 60-70, a fait place, oui, à quelque chose de beaucoup plus trouble et mystérieux. Enfin, l'art des années 60-70 était quand même fondé en grande partie, en tout cas, tout ce qui concerne ce que vous appelez l'œuvre située, du côté, oui, du dévoilement, en fait, hein, ouais. En même temps que l'aura de l'œuvre,
réalisme foncier,
oui, qu'un mystère ne devait subsister à son sujet. Hein. Et en réalité, ce que vous avez montré là, c'est que revient en force, finalement, oui, du mystère, voire de l'occulte, hein, puisqu'on occulte, par exemple, les sources des fumigènes de Le Blon, la source du mouvement aussi qui anime les cimaises du Berheim ne sont pas bien visibles, paraissent mystérieuses dans leur effet même, hein, cette lenteur insoutenable.
Je crois que c'est la fin du... En ce moment, on vit une époque où est mise en question le paradigme de la transparence qui avait dominé trois décennies de l'art. Parce qu'il faut bien comprendre que même si... des gens comme Hacher et Burener. Buren a toujours porté une attention très profonde au travail de quelqu'un comme Riemann, qui peut être considéré comme le parangon du modèle.
moderniste, c'est qu'au fond, même si l'un nous fait nous intéresser au lieu alors que l'autre reste centré sur le tableau, une même logique conduit les travaux de l'un et l'autre, c'était une logique du réalisme. Reinhard veut montrer réellement comment ce qu'est un tableau dans toutes ses composantes, tension du châssis, fixation au mur, touche, et puis Durell veut simplement, il élargit le champ visuel en montrant, et dans un même souci réaliste, ce qu'est le mur d'exposition, ce qu'est l'espace d'exposition, comment il agit et interagit avec cette volonté foncièrement réaliste, une sorte de son rationaliste hein, qui a dominé, qui a été celle du mainstream de l'art pendant 3 décennies, ça fait disons une dizaine d'années qu'on voit qu'elle commence totalement à se fissurer.
Oui.
Oui, alors il n'y a pas de micro de salle en fait, mais c'est pas, je ne veux pas profiter du fait que... Non, c'est pas ça, je pense que je parle assez fort et que de toute façon l'enregistrement des interventions de ce type, c'est pas nécessaire. C'est juste pour compléter éventuellement, tu vas me dire, bon, un chabus devant une verrière transparente, bon voilà, oui. Tu vas dire que je co-signe volontiers, et bon, mais eu égard à la filiation qui m'engage vis-à-vis de mon prédécesseur et du fondateur, mais justement dans une continuité en rupture et inversement. Et après ça, il se trouve que l'exposition qui suivra celle-ci est consacrée à une exposition personnelle d'un artiste qui est Laurent Montaron, et pour qui la question éventuellement d'une spiritualité est posée, sans pour autant qu'on évoque autre chose que quelque chose de l'ordre du symbole, ou en tous les cas, ni du mystère ni du trouble, c'est pas l'opaque, etc., mais c'est une notion plus spirituelle et qui n'est pas pour autant religieuse. Bon, alors, ça, c'est pas nouveau, on reparle de ces questions. Il se trouve qu'il y a une exposition à Beaubourg récemment qui abordait, si tant est qu'on puisse le faire sous cet angle, ces questions-là. Or, moi, d'après moi, c'est pas le temps. Enfin, l'exposition de Beaubourg pouvait être extrêmement intéressante, mais pour autant, il se trouve que parmi les générations d'artistes qu'on découvre aujourd'hui, de 30 à 40 ans, cette question est vraiment fondée, importante. Donc, moi, j'ai pas de réponse à ça, mais pour autant, va falloir même oser dire certains mots.
Oui, même puis avant Chabous, avant Boutaro, donc il y a eu aussi Grasso dans ces murs, hein, il y a un peu plus d'un an. Donc, autre artiste, finalement, aussi, qui réintroduit dans sa démarche l'appel à certaines forces. Sinon, occulte du moins.
Moi, je préfère parler de fin du paradigme de la transparence, parce que il faut, je veux dire, l'histoire du sacré, tout ça, c'est un peu lourd, c'est un peu difficile, parce que ça ne permet sans doute pas de faire apparaître la spécificité de tout ça. Je pense que c'est aussi ce sont des artistes qui ont peur de l'imposition d'un sens. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils jouent avec le non-sens, avec l'absence. L'absence de sens, et on pourrait d'ailleurs étendre la démonstration à d'autres artistes, même d'autres artistes qui semblent ne pas entretenir un lien aussi évident avec le mystère, avec le secret, la disparition, eux aussi souhaitent jouer avec quelque chose comme un sens absent. Je veux dire, dans la salle, je vois Elisabeth Weperval là, qui a écrit un article sur ce sujet, hein, Pretty Vacant, qui montrait comment toute une série d'œuvres d'art essayait de déjouer d'une certaine façon l'imposition d'un sens. Et là, on n'était pas du tout avec des artistes de la même filiation, je veux dire, je ne sais pas, Le Blond, Grasso, Montaron, et on était plutôt avec d'autres types d'artistes représentatifs d'autres sensibilités esthétiques, mais chez lesquels aussi, donc il y a une espèce de non-sens un peu sacré, mais aussi de non-sens laïque, je crois. Le phénomène est beaucoup plus important. Il faudrait aussi, dans ce passage en revue de la fin du paradigme de la transparence, analyser l'évolution de la carrière de quelqu'un comme Pierre Huyghe. Pierre Huyghe qui nous fait démarrer sa carrière avec une espèce de position postmoderne extrêmement désenchantée et puis qui nous emmène avec une force, une logique qu'il va falloir, d'ailleurs c'est une des tâches de l'époque, de comprendre en profondeur, qui nous emmène jusqu'à l'exposition du musée d'art moderne ou de la Tech, avec ces grandes portes qui sont des espèces de pare-regard de l'aura, quoi, je veux dire, enfin de quelque chose du spectacle en tout cas. Donc c'est vrai que Pierre Huyghe a aussi, Philippe Parrenot, étaient de ces artistes qui ont sans doute préparé ce qui se passe aujourd'hui, et ce que j'appelle moi la fin du paradigme de la transparence.
Et donc elle dit sans doute il y a un lien avec cette espèce de retour finalement aussi à des mythologies romantiques.
Tout à fait.
Oui, permettez encore, justement, c'est pour ça que j'ai évoqué ce mot de spiritualité, pour justement éventuellement entendre celui de romantisme, mais peut-être les mettre en question, parce que toi-même tu dis, bon, Pierre Huyghe ou Parrenot ont préparé ce terrain-là, mais aussi, moi, alors je vais te répondre, Carsten Møller, Anne-Véronica Janssens et René Graham d'une autre manière, c'est-à-dire que la question de la perception, et voire d'une perception critique chez Carsten Møller est quand même incluse et potentiellement possible, peuvent cohabiter, alors que les quatre ne sont pas que de la sensorialité ébahie, et de cet ordre-là, et que justement il n'y avait pas cette notion d'analyse ni de postmodernité version Pierre Huyghe, ni d'optical art ou de cinétisme, mais qu'il y avait une tentative de recherche sur un monde d'aujourd'hui avec sa relation entre espace, cerveau, aujourd'hui, cosmos, etc. Enfin, c'est-à-dire on est en face d'artistes chercheurs.
Chez Carsten Møller, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que Carsten Møller ne participe pas du tout de ça, mais est de ces artistes qui vont clore précisément, et magnifiquement, c'est pour moi un des artistes les plus importants de l'époque, mais clore la période précédente. Enfin, je veux dire, c'est, je ne pense pas du tout qu'il ait à voir avec ça. C'est quelqu'un qui participe, me semble-t-il, au contraire, complètement de ce mouvement de sécularisation, mais en un stade où on ne croyait pas de voir que l'art pourrait aller. C'est au fond quelqu'un qui dit, alors que l'art avait eu des ambitions positivistes, moi je pense que la version de l'art, c'est pas en cela il est l'héritier de Robert Smithson. L'art, c'est pas fait pour nous apprendre quelque chose, c'est fait pour restituer notre capacité à ne pas savoir apprendre quelque chose. Donc c'est une espèce de moment ultime de la précédente séquence historique, me semble-t-il, hein, Carsten Møller, je le vois. Alors là encore, je veux dire, il faut bien voir que l'exercice auquel on se livre là est difficile, parce que chaque œuvre résiste, chaque œuvre est plus complexe que la logique dans laquelle on essaye forcément de l'inscrire. Hein. Mais malgré tout, c'est la tâche du critique, de l'historien, que d'essayer de mettre à jour des mouvements de fond, des phénomènes structurants qui, par-delà les esthétiques, les générations, les vocabulaires, font qu'une époque a un sens ou pas.
Y a-t-il une question dans la salle, ou un commentaire, une intervention? Il y a un micro. Non. Bon, on peut réserver aussi pour la table ronde de tout à l'heure. Voilà, la discussion s'est amorcée. Elle va peut-être rebondir, je l'espère en tout cas, avec l'intervention de Mathieu Poirier que nous allons écouter maintenant. Donc Mathieu Poirier est assistant à Paris 4, il enseigne à Paris 4. Il est historien critique d'art, il est le correspondant en France du quotidien allemand Der Spiegel, et collabore également à Technique et Architecture, temporairement, nous l'espérons, en panne actuellement. Il a été le commissaire de l'exposition Landscope chez Tadeusz Ropak en deux chapitres, à Paris et à Salzbourg. C'était au mois de juin l'année dernière, et à l'automne, là. Hein. et il est actuellement chargé du catalogue de l'exposition du CAPC de Bordeaux sur l'art psychédélique. Il prépare également une exposition Le Parc pour la galerie Sicardi à Houston et une autre autour de Félix Chevalny à Berlin. Voilà. Son intervention s'intitule Mirage Panoptique. Elle resserre un petit peu le focus, je crois, sur l'œuvre de l'artiste de Chir, en tout cas un repas de cette œuvre, pour donc aborder un certain nombre de thèmes que je vous laisse le soin de nous dévoiler.
Très bien, merci Arnaud de cette présentation. Merci aussi à Nathalie Arginot pour cette invitation générale et évidemment à l'artiste, à Évariste Richer, sur lequel va porter mon commentaire aujourd'hui. Alors, je commence par directement dans le vif du sujet, en fait, hein, avec cette œuvre qui s'intitule donc Une ville contemporaine. C'est la version numéro 1, pour l'instant il en existe deux. Je vous montrerai la deuxième dans la foulée. Donc, comme vous le voyez, cette œuvre qui a été présentée à la galerie Noisy-le-Sec lors de l'exposition monographique intitulée La rétine de l'artiste, eh bien, cette œuvre fonctionne sur le principe d'un papier de 2 mètres sur 10, simplement punaisé le long de cette simèse de plan semi-circulaire. Est présente, comme vous le voyez, mais évidemment très difficilement. C'est une œuvre qui résiste à l'enregistrement photographique de manière forcenée. On a beaucoup de mal à voir le motif, mais je ne vous cacherai pas que quand on est face à l'œuvre équipée de ses seuls yeux, sans médias, mais finalement on a les difficultés qui sont finalement assez proches. Ça fait évidemment partie des enjeux essentiels de ce type d'œuvre. Alors pour ce qui est du motif, de ce qu'il représente, c'est en fait une reproduction, évidemment à une échelle bien supérieure, un dessin d'étude de Le Corbusier, intitulé La ville contemporaine, et non pas une ville contemporaine, et qui date de 1922, que l'artiste a trouvé dans les archives Le Corbusier, et qu'il a donc rétro-projeté sur ce support de 2 mètres sur 10, et ensuite reproduit d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'il n'a pas seulement fait que suivre les lignes, il les a doublés par un système proche de, qui est celui de l'anaglyphe, qui consiste en fait à superposer un trait bleu et rouge sur la même ligne en fait. Exactement, c'est cyan et magenta. L'objectif évidemment de ce procédé habituellement est de créer une vision stéréoscopique. Ici évidemment, on n'est pas du tout dans cette optique-là, sachant que l'artiste ne fournit pas les lunettes ad hoc qui d'habitude sont fournies pour ce type de dispositif. Alors on verra ensuite pour quelles raisons précises. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le motif de la ville contemporaine de Le Corbusier a ceci de particulier qu'il représente comme ça une des grandes utopies urbanistiques de ce siècle, et notamment par son plan rigoureux, orthonormé, hippodaméen, qui comme ça fait correspondre l'agencement et l'organisation de la ville à un ordre extrêmement rigoureux, à une orthogonalité claire, qui est évidemment défendue par Le Corbusier comme garante d'une nouvelle civilisation. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est que l'artiste parle, quand il qualifie le projet de Le Corbusier, il parle de mirage en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que la reproduction qu'il en a, l'illustration là, ou la reprise, le remploi finalement qu'il fait de ce projet, finalement confirme son caractère de mirage, c'est-à-dire que ces lignes que vous voyez, alors là je vous montre rapidement une ville contemporaine 2, mais je vous montre ensuite le dessin qui a servi d'origine, qui a servi de base finalement à la ville contemporaine 2. Je vous montre avant tout un grossissement comme ça d'un des éléments, d'un fragment finalement de l'image qui montre comme ça cette technique d'anaglyphe. Alors évidemment, C'est assez peu précis sur le dessin lui-même, c'est assez peu précis sur mon ordinateur, et ça l'est évidemment encore moins une fois tout ça projeté, mais il y a vraiment une vibration de la ligne qui est assez prégnante, et qui finalement va empêcher le spectateur de faire le point sur, cette, sur ces formes, sur ce dessin, et finalement renforcer comme ça ce caractère épiphanique, comme ça, phénoménal de cette ville, aussi rigoureuse et construite soit-elle initialement. Vous voyez, il y a une sorte de conflit, de tension finalement entre la conception initiale du projet architectural et finalement sa représentation dessinée sur ce support particulier qui prend donc une forme semi-panoptique. Alors, ce qui est très intéressant, j'emploie le mot semi-panoptique à dessein, en sens que le panoptique, on le connaît évidemment surtout par le biais de Foucault, dans son ouvrage Surveiller et punir, hein, de 1975, qui rappelle notamment les origines de ce système carcéral inventé par Jeremy Bentham en 1780. Peu de temps après, j'y reviendrai, le dépôt de brevet du panorama en 1787 par Robert Barker à Londres. Alors, je voulais juste vous montrer certaines images, vous excuserez certains allers-retours dans la suite des diapositives. Je voulais juste vous montrer une image comme ça d'une prison à structure panoptique, un exemple quelconque, en l'occurrence ici la prison désaffectée de Presidio Modelo à Cuba, mais qui présente cet avantage d'être très clair et de montrer un petit peu le principe du panoptique, dont je vous rappelle le principe, hein, la structure panoptique permet à un individu logé dans une tour centrale d'observer tous les prisonniers enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour. Évidemment, l'idée étant de faire de l'observateur un témoin invisible de personnes visibles. Alors, évidemment, ce sont des thématiques qui a énormément développé Foucault, voyez, comme modèle finalement de contrôle sociétal, mais aussi ce qu'on peut y voir, c'est une forme finalement d'appréhension de l'œuvre d'art sous son modèle panoptique, étendu, environnemental. En considérant évidemment la place centrale du spectateur et finalement le caractère comme ça omnipotent de son regard. Alors, il fallait savoir aussi que le panorama de Robert Barker en fait a été premièrement baptisé la nature à coup d'œil. La nature à coup d'œil, ce qui sous-entendait évidemment que tout devenait contrôlable, que le regard finalement pouvait cerner le réel, le contrôler, le maîtriser, notamment une époque, la fin du XVIIIe siècle, où les villes prennent une ampleur certaine et échappent finalement de plus en plus au contrôle de la raison. Donc évidemment, ce modèle comme ça de structure panoptique permet finalement de mieux penser le système semi-panoptique posé par Évariste Richer dans sa lecture de la vie contemporaine de Le Corbusier. Alors, il faut savoir aussi donc, que la peinture de panoptique, initialement, je vous remontre cet exemple, le programme en fait, de cette peinture, le programme de la peinture de panorama est donc hyper réaliste, hein, un hyper réalisme qui fonde en fait, le crédit documentaire à l'époque. Alors, c'est évidemment à ça qu'on pourrait s'attendre face à une vision, semi-panoramique chez Évariste Richer, mais évidemment c'est tout le contraire auquel on va être confronté, c'est-à-dire un hyper-réalisme qui est finalement dévoyé, qui va se dissoudre sous nos yeux de manière perceptuelle et phénoménologique même. J'ai été chercher aussi une similarité dans le dispositif, hein, le fait que ce soit un dessin sur un support papier de 2 mètres sur 10, donc en rouleau, finalement renvoie aussi au dispositif du panorama qui proposait des toiles qui étaient elles-mêmes roulables en fait, hein, au gré finalement des différentes expositions et de la construction des différentes structures. Donc il y a finalement quelque chose d'assez équivalent, d'une adéquation comme ça du support à son, à l'architecture qui le reçoit. Alors, Philippe Dubois, qui a notamment écrit sur la question du panorama, spécifiait que là, le panorama était finalement l'incarnation de l'acte de regard, l'incarnation du déroulement de l'acte de regard, c'est-à-dire que ce type de panorama, chez Évariste Richer, n'a pas de position vraiment centrale. Il n'y a pas finalement des marques sur le sol au centre de ce demi-cercle qui permettrait comme ça de voir les choses parfaitement circulairement. On peut tout à fait circuler en son sein. C'est pour ça aussi que j'ai sélectionné cette photo plutôt qu'une autre. Où l'on voit un personnage déambuler et finalement parcourir le motif, parcourir l'œuvre. Alors, Bernard Comment, qui a aussi écrit largement pour le coup sur le panorama, dans un ouvrage publié en 1993, hein, le 19e siècle des panoramas, il affirme dans ce livre que le panorama a donc assouvi par l'illusion le fantasme de totalité, de possession du monde, je cite, d'une maîtrise retrouvée par rapport à l'espace collectif tentaculaire. Donc c'est donc bien cela qu'il s'agit initialement dans le panorama, et c'est évidemment à ce type de considération que Évariste Richer prend sciemment à rebours. Alors, donc je voulais aussi vous montrer cette autre version de la ville contemporaine qui correspond à un autre dessin de Le Corbusier. Donc vous voyez évidemment là la succession comme ça, ce rythme horizontal effréné des lignes, de surcroît en anaglyphe, qui va comme ça renforcer le caractère hautement optique, voire sismique de la surface du dessin. Nonobstant évidemment la profondeur perspective, cet effet d'aspiration extrêmement prégnant auquel on est finalement, que l'on vit évidemment très, très fortement une fois confronté au dessin qui est à peu près une fois et demie plus grand que l'image que l'on a projetée ici même. Donc évidemment il y a vraiment une implication comme ça phénoménologique du corps qui va se retrouver aspirée comme ça dans cette œuvre qui ne saurait être abstraite, mais qui malgré tout en a évidemment de nombreuses qui revêt de nombreux caractères comme ça de l'œuvre abstraite. Je voulais ensuite vous montrer quelques autres œuvres en fait qui finalement même si elles sont assez différentes dans le concept finalement participe un peu du même effet comme ça de déstabilisation et d'atomisation comme ça de la matière, de la représentation, qui évidemment si on peut remonter au néo-impressionnisme et à toutes ces suites, renvoie évidemment au procédé que l'on retrouve énormément dans le cadre de l'op art et de l'abstraction perceptuelle, hein, une sorte de forme d'atomisation comme ça du monde visuel. Une confrontation comme ça entre les deux. Évidemment ici, chez Loïc Ragenès, un artiste que j'ai eu l'occasion de montrer dans l'exposition Landscape, justement, on a finalement un système assez équivalent où l'artiste va reproduire, pareil, par projection, de simples cartes postales. Cette fois-ci, ici, c'est, je crois, le syndicat d'initiative de Chalon-sur-Saône, exactement, avec cette architecture elle-même de plan circulaire, qui va comme ça se désagréger, se fondre finalement dans l'atmosphère, en suivant évidemment ce processus extrêmement pénible, encore plus pénible finalement que ce suivi en anaglyphe des lignes du dessin de Le Corbusier. Comme vous le voyez, chaque petit point est en fait réalisé au crayon de couleur en fait. Hein. Donc on a une espèce de monochromie comme ça qui va encore plus, encore davantage noyer ce motif, hein, et en l'occurrence une architecture elle-même moderniste. C'est encore une fois, il est encore une fois question de noyade du modernisme, pour finalement créer un parallèle avec le discours de Michel Gautier qui a précédé. Je voulais aussi vous montrer évidemment une vue de l'expo avec deux œuvres de Loïc Ragenès à gauche et à droite, une rétroprojection de Laurent Grasso de 2007, hein, d'assez grand format. Il y a deux formats, 1m50 sur 1m50 et 2m50 sur 1m50. C'est la deuxième format que je vous montre ici. Il a ce site particulier qu'il peut parler à nombreux d'entre vous, sachant que cette série avait été montrée ici même en 2007 lors de l'exposition Magnetic Palace, où on en voyait en fait les conditions particulières d'éclairage influaient sur la nature perceptive de l'œuvre. Alors, c'est pas seulement des conditions d'éclairage qu'il s'agit ici, mais aussi de la position du spectateur. Il faut savoir qu'en fait, cette œuvre est une sérigraphie argentée, contrecollée sur papier, lui-même sur papier, contrecollée sur aluminium, et que cet effet comme ça de ton sur ton, où il y a de très faibles variations de tonalité entre le fond et la forme, entre le motif et l'arrière-plan, finalement font que le moindre décalage, parfois le moindre mouvement de tête, va faire disparaître le motif et finalement nous confronter à la fugacité même de l'événement atmosphérique cosmogonique qui est représenté. Alors ici nous avons donc une éclipse en fait, hein, ce qui est très intéressant dans cette éclipse, hein, c'est que évidemment la perception résonne avec la nature de l'événement qui est représenté. Hein. Selon notre endroit, le tableau va apparaître, disparaître, réapparaître, etc. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est cette récupération, finalement, cette reprise. Avant, j'employais le terme architectural de remploi. On parle d'appropriationnisme aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont Évariste Richer, Loïc Raguenès ou même Laurent Grasso, finalement, vont faire appel à des images préexistantes pour les détourner, finalement, en opérer une sorte de réflexion, de mise en abîme, comme ça, de leur propriété et de leur identité. Ce que fait Laurent Grasso ici, c'est reprendre une des illustrations du livre de Camille Flammarion de la fin du XVIIIe siècle qui offrait comme ça je me suis planté.
19e.
J'ai dit 19e, oui. Qui va comme ça illustrer pour ses écrits qui vont tendre à vulgariser finalement des phénomènes scientifiques et astronomiques. Alors, vous voyez, donc, c'est l'idée comme ça que, finalement, représenter un paysage aujourd'hui semble relativement impossible, mais néanmoins, on peut encore représenter des représentations, et, évidemment, de manière détournée, pour finalement, employer un terme assez galvaudé. Alors, je voulais aussi vous montrer le fameux plan voisin, hein, qui aurait pu transformer toute une partie de la rive droite de Paris de manière assez radicale, hein, et c'est tout à l'heure je vous parlais de radicalité de l'architecture, de l'utopie finalement de Le Corbusier, et à la fois de son côté avant-gardiste et en même temps de son caractère autoritaire et relativement effrayant. Je pense qu'évidemment c'est autour de ça que joue aussi ce type de mise en abîme et de regard critique sur l'utopie moderniste. Alors, je voulais aussi vous montrer ce plan d'orientation du panorama de Londres que l'on vient de voir. Hein. Ici, c'est sachant qu'évidemment chaque édifice pouvait accueillir différentes toiles, différentes surfaces peintes. Ici, c'en est une autre dont on voit le plan. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit ici la perspective un peu dévoyée, hein, cette perspective un peu circulaire, comme ça, qui va finalement abolir le point de vue pour offrir un nombre infini de points de vue en fonction finalement de l'axe de regard du spectateur. Et finalement, là, l'œuvre d'Évariste Richer nous propose quelque chose d'assez équivalent en sens que, mais finalement, une sorte de contre-illusion. Le motif est ramené à plat, projeté à plat et après courbé, ce qui fait finalement remonter ces parties latérales et nous rappeler finalement qu'on n'est pas ici dans un procédé typiquement illusionniste, bien au contraire, mais plutôt un examen comme ça de ce type de procédure. Alors, je voulais enchaîner ensuite sur un exemple qui m'a semblé incontournable quand on parle d'œuvres panoptiques. C'est l'exemple de Continuum de Bridget Riley, de 1963. Cet artiste britannique que l'on connaît essentiellement pour ses tableaux bidimensionnels, mais animés comme ça de secousses optiques, c'est cette œuvre Continuum qui, en fait, qui est fondée sur un plan en spirale, qu'il est évidemment impossible de sentir ici, mais cette œuvre comme ça, dans laquelle on pénètre et qui va environner à 180 degrés le spectateur, finalement sans aucune possibilité d'échapper au motif et à sa force comme ça optique, qu'en fuyant finalement du dispositif. Alors c'est tout à fait intéressant, on est dans un degré comme ça, pour employer le mot, hein, psychophysique, hein, de mesure comme celle de la sensation, dans un degré psychophysique bien plus élevé, bien plus contraignant, voire astringent que chez Évariste Richer, mais finalement,